Merci d'avoir choisi Europe 1. Belle journée, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et j'ai 60 minutes pour vous convaincre que la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger dans les territoires, dans les associations, dans les entreprises aussi. Vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan sur le monde de l'hôtellerie aujourd'hui, mais on passe en coulisses et vous allez voir que les Français sont très forts quand il s'agit d'imaginer le lieu de nos futures vacances. Vous connaissez tous les cabans Le Minor, après-guerre fabriquer la célèbre veste de marins. Après des années difficiles, elle redémarre. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis un poste en bas de chez vous, sans changer de job, au lieu de faire des kilomètres, vous en rêvez, Jobix peut peut-être vous le trouver. L'appli permet de faire des échanges avec d'autres salariés dans la même situation. C'est la solution, c'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole. Venez nous dire à quoi tiens ressemble l'hôtel de vos rêves. Quel confort vous attendez, Anissa, quand vous partez en vacances. Quel service aussi.
Et vous pouvez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. Dès maintenant, Twitter, hashtag Europe 1. Et puis le standard, vous connaissez le numéro par cœur, 39-21, 50 centimes la minute.
Oui, car s'il y a bien un moment où on a envie que tout soit parfait, c'est quand nous sommes en congé et vous allez voir qu'il y a en France des artisans, des spécialistes qui travaillent souvent dans l'ombre pour vous donner le meilleur. Pour accueillir nos invités à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et Eric Léandre, et bonjour.
Bonjour.
Notre coach ce mardi, fondateur et PDG de Quant. C'est vrai que quand on pense hôtel, on pense évidemment chambre d'hôtel et qualité de sommeil. Et s'il y a bien un élément important, c'est le lit, le matelas. Bonjour Geoffroy Thirier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez Thirier Lictrie dans le Nord. C'est une entreprise que vous connaissez bien puisque au départ, elle appartenait à vos parents, c'est ça ?
C'est exactement ça. Donc mes parents ont créé cette entreprise il y a 28 ans et depuis le départ spécialisée dans la fourniture de matelas, de sommiers et d'accessoires de literie au domaine de l'hôtellerie, de la collectivité.
Alors il y a 4 ans, c'est vous qui reprenez l'aventure ?
C'est exactement ça.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous tente ?
En fait, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit, et je me suis passionné pour le domaine de l'entreprise, pour la literie et tout ce qu'on peut faire. C'est un marché mature, mais qui recèle encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, année après année, on a réussi à développer l'entreprise. Et à un moment donné, mes parents m'ont dit « on veut plus agrandir plus qu'aujourd'hui. Nous, dans quelques années, nous partons en retraite. Par contre, si tu veux reprendre, ok, on t'accompagne. » Et donc, en 2012, on a décidé que je reprendrais Thierry Litry, effectivement, donc il y a 4 ans. Et donc, je suis aujourd'hui l'heureux dirigeant de cette belle société.
Oui, à l'époque, vous étiez 5. Aujourd'hui, vous avez repris, vous avez développé aussi. Vous êtes 100, c'est ça ?
C'est ça. J'ai une centaine de collaborateurs, hommes et femmes, dans le nord de la France, à Waterloo.
Vous avez plusieurs sites de production aussi,
oui,
à Waterloo mais pas seulement.
Oui, on a 3 sites de production, donc 2 à Waterloo et 1 à Ligny en Cambrésie, à côté de Cambrai, donc à 1h15 de notre site principal.
Alors quand on fait du matelas, pardon, hein, quelle est la différence quand on fait du matelas pour l'hôtellerie et l'hôtellerie haut de gamme ?
Alors la différence entre le matelas que vous avez chez vous et celui que vous allez pouvoir trouver dans un hôtel, l'idée c'est que il doit être le plus consensuel possible. Le public qui arrive dans un hôtel est très large. En termes de morphologie, en termes d'habitude, vous pouvez avoir des clients étrangers et les habitudes de confort ne sont pas du tout les mêmes.
Donc il doit s'adapter à tout le monde.
C'est ça, il doit être le plus consensuel possible. Il doit aussi répondre à des normes strictes, notamment d'hygiène et aussi de normes au feu. Parce que chaque hôtel a des normes à respecter. Et donc ce sont des critères qui sont pris en compte dans notre développement de produits spécifiques pour l'hôtellerie.
Elisabeth, il y a beaucoup d'hôtels en France. On n'a pas fait le tour de la question pour regarder comment se portait le marché.
Alors déjà, au niveau du marché, on le sait, on a eu une année noire en 2015 après les attentats de Paris, 2015-2016. Et en 2017, l'industrie hôtelière, toute gamme confondue, a enregistré une hausse de la fréquentation de près de 4% par rapport à 2016. C'est surtout Paris qui a repris des couleurs. Et l'hôtellerie à Paris connaît une progression de 8% de son taux d'occupation. Donc c'est un marché qui est en croissance. En 20 ans, le nombre de chambres d'hôtel est passé de 400 000 à 600 000 chambres. Il y a plus de 18 000 hôtels en France. Alors oui, il y a des hôtels indépendants qui ont disparu. pour laisser place à des grandes chaînes que l'on connaît tous. Et il y a un petit chiffre que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a 24 palaces en France et en 10 ans, le nombre a considérablement augmenté pour la clientèle étrangère, bien sûr.
Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, vous faites l'essentiel de votre chiffre ici en France, hein.
Exactement, 95% de notre chiffre d'affaires est fait sur la France et un petit peu à l'étranger, mais on va dire que c'est de l'export de proximité, Belgique, Luxembourg, Suisse essentiellement.
Que dit le coach de cette belle aventure familiale?
C'est génial, et puis le reprendre c'est encore plus joli. Moi je me demandais, et le matelas connecté pour l'hôtel c'est pour quand? Alors dans le respect du client, c'est-à-dire qu'on lui donne ses infos à lui et on les remonte pas pour les revendre, mais c'est pour quand ça?
Alors, il y a déjà pas mal de choses qui existent sur des applis ou sur des objets connectés à mettre au-dessus du matelas. On l'a pas encore intégré dans le matelas, mais effectivement, c'est des pistes qu'on développe. On a aussi développé des matelas qui augmentent les performances de sommeil. On a une marque qui s'appelle Hypnov, qu'on a testé scientifiquement. Le résultat de l'étude, c'est qu'on a gagné 40 minutes de sommeil sur la même durée consacrée au sommeil. On a beaucoup gagné sur la durée d'endormissement via des technologies exclusives. Et effectivement, c'est une marque qu'on développe aussi bien dans le domaine grand public que dans l'hôtellerie. Ça permet de raconter vraiment d'autres choses. Et le sommeil, c'est souvent un mot à beaucoup de nos problèmes. Problèmes de prise de poids, problèmes de stress. Et le sommeil est la solution qu'on oublie bien souvent.
Vous faites du sur-mesure en fonction aussi des groupes hôteliers qui vous passent des commandes. Je crois qu'il y en a qui vous demandent des prototypes pour les tester, pour pouvoir les mettre dans leurs établissements après.
Bien évidemment, nous avons des clients importants qui ont des centaines d'hôtels en France pour lesquels on fait des modèles exclusifs pour eux et qu'on suit année après année. Ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir un fabricant français.
Et vous arrivez à vous renouveler?
Oui.
Sur les matières, par exemple?
Sur les matières, sur les dimensions, sur les compositions. Aujourd'hui, la majorité des hôtels veulent un surmatelas. C'est vrai que c'est une tendance qui nous vient des États-Unis. On s'adapte. On est une équipe petite, réactive. On doit faire la différence parmi un métier qui est dominé par des gros acteurs.
Petite, réactive, mais quand vos parents étaient là, vous sortiez combien de matelas par jour et vous en sortez combien aujourd'hui?
Alors, on a commencé la première année en 91 à sortir 50 matelas par jour. Aujourd'hui, on sort 1100 matelas par jour. Donc oui, l'échelle n'est plus tout à fait la même. Mais voilà, on reste une PME de 100 personnes.
Tout à l'heure, il m'a même dit qu'il y a 1 million de personnes ce soir qui vont dormir dans ces matelas. Million de personnes, ça fait rêver en données.
Oui, parce que le groupe, je crois, que vous n'avez pas cité, hein, c'est Pierre et Vacances, notamment, avec qui vous travaillez. Forcément, il y a beaucoup de monde qui passe, notamment dans les villages et dans les résidences de Pierre et Vacances.
Tout à fait. On met environ 200, 250 000 matelas en marché par an. La durée de vie d'un matelas en hôtellerie, c'est entre 5 à 7 ans, selon les différents groupes hôteliers. Donc faites le calcul, des millions de Français et d'étrangers dormiront dans un matelas à Thierry Littry ce soir.
On reste ensemble, on va changer de décor, on reste dans la chambre d'hôtel, vous allez voir, j'ai des choses à vous proposer.
Il est 13h08.
Europe 1.
Il y avait une chanson qui disait « Vacances, j'oublie tout ». Mais quand ce sont vos affaires qui restent à l'hôtel, c'est un vrai problème. Eloé a pensé à tout. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui on peut dire que la France prépare ses vacances puisqu'on vous parle de l'hôtellerie. À quoi va ressembler l'hôtel de demain? Vous pouvez réagir à cette émission comme chaque jour, hein, entre 13h et 14h, vos questions, vos réactions, vos témoignages sur Twitter, hashtag Europe 1, et au standard, le 39-21, 50 centimes la minute.
Toujours avec moi Eric Léandri, fondateur de Quant, coach du jour, et Elisabeth Assaye, bien sûr, qui m'accompagne toute la semaine. Les vacances, vous le savez, c'est synonyme de décompression et quand on a la tête ailleurs, c'est vrai qu'il est fréquent d'oublier ses affaires. Bonjour Fabien Cœuruni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Elway. Au départ, je crois que quand vous vous êtes lancé, vous vouliez tout simplement aider les voyageurs à ne pas égarer leur bagages. Et puis très vite, vous vous êtes aperçu qu'il y avait aussi une vraie demande à l'intérieur des hôtels.
Alors à la base, Elway, c'est des services bagages. Donc nous livrons des valises dans les gares, les aéroports ou à votre hôtel. Et nous créons maintenant avec les hôteliers des services pour faire livrer les objets que les voyageurs oublient dans leur chambre.
Oui, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne votre outil? C'est à l'intérieur de l'hôtel même, il y a une plateforme?
C'est ça en fait, le réceptionniste a accès à une interface. Si le voyageur a oublié son portefeuille ou une alliance, il peut demander à ce qu'elle soit livrée en quelques clics chez lui.
Vous êtes une sorte d'interface finalement entre le client qui a laissé alors son téléphone, sa montre ou que sais-je encore, et l'hôtel qui lui n'a pas du tout de temps pour gérer ce genre de problème ?
Voilà, en fait, les bagages et les objets oubliés, c'est d'énormes sources de stress pour les voyageurs. Les réceptionnistes vont essayer de gérer ça quand ils ont du temps. Et en fait, une gestion simple et transparente en fait, permet d'améliorer l'expérience client et d'enlever ce stress lors du séjour.
Dites-moi, je suis un peu tombée à la renverse. Sur l'année, redites-nous combien il y a d'objets oubliés dans chaque chambre.
Alors, le chiffre exact, on est à plusieurs millions. Il y a une étude qui chiffre à 9 millions par an dans les hôtels en France.
Dans une chambre, on va forcément oublier 5 objets, c'est ça ?
5 objets ?
Lesquels ?
Lesquels ? Ah oui, tiens, bonne question. Lesquels ? Qu'est-ce qu'on oublie le plus souvent ?
Les chargeurs, les alliances en fait. Une bonne partie.
Mais mesdames, messieurs, quand même, il ne faut pas l'enlever tout simplement pour ne pas l'oublier.
Et mesdames aussi.
Oui, j'ai dit mesdames, messieurs. vous avez reçu, c'est important de le dire, le prix de l'innovation dans la catégorie technologie au salon Equipotel.
Oui, voilà, c'est ça. C'est une petite innovation, mais en fait qui change la vie des réceptionnistes et des hôteliers.
Combien est-ce que vous avez de clients aujourd'hui ? C'est en plein développement.
Alors, on a créé la société il y a 2 ans et demi. Mmh. On a livré plus de 75 000 bagages. On a une centaine d'hôtels. Donc maintenant, on commence à avoir une vraie base de clients. C'est intéressant.
Que dit le coach ?
Ouais, et comment vous faites pour vous développer ? C'est bouche à oreille ? C'est de la vente ? C'est quoi ?
Donc il y a une partie B2C, donc vraiment du référencement sur la partie livraison et la partie consigne. C'est-à-dire qu'avec les hôteliers, on a créé un service de consigne hôtel où quand vous voyagez, vous pouvez déposer vos bagages dans des hôtels partenaires.
Ça va. Et vous vous mettez à l'international ? Vous allez pouvoir livrer partout ?
À partir de deuxième partie 2019, l'idée est de partir à l'international, oui.
Pas mal. Ça suffit la dernière levée de fonds d'1,6 million ?
Il y en aura sûrement une prochaine.
Ah, une prochaine bientôt ? Petite hésitation. 2019, ouais. Je sens que vous nous faites des petites cachotteries quand même. Hein.
Non, c'est...
Ça vient vous tout dire ici, on est entre nous, vous savez.
Ouais, c'est génial. C'est génial.
Vous avez la possibilité de développer jusqu'à quelle taille finalement les objets que vous transportez ? Moi, c'était une question que je me posais parce que l'alliance, on voit bien, le chargeur aussi, mais... Si on oublie toutes les valises,
on peut livrer à peu près tout. À la base, comme on fait la livraison de bagages, on livre des surfs, des planches à voile. Donc à partir de moment-là, on peut.
Mais comment on doit payer ? Par exemple, moi, je sais que j'ai oublié un livre dans un hôtel récemment, et il faut que je retourne dans l'hôtel pour récupérer mon livre. Sinon, je dois payer des frais de livraison. En tant que consommateur, on fait comment ?
Ça dépend des hôteliers. Certains hôteliers vont avancer les frais ou vont offrir le service à leurs clients. D'autres, justement, quand ils ont énormément de chambres, ça devient vraiment un budget pour eux. Eh bien, nous prenons en charge toute la partie paiement. Et donc là, c'est le voyageur qui peut régler en ligne sa livraison et récupérer son objet.
Mais vous travaillez directement avec les hôtels. C'est-à-dire que votre service, vous le vendez à l'hôtel directement.
C'est ça.
Et c'est un service qui se négocie combien environ ?
On a un service par abonnement et l'hôtel va payer à chacun des objets restitués. Donc il y a des frais de dossier qui vont être ponctionnés.
Éric Léandre ?
Ouais. Et vous avez un service premium parce que par exemple la dame qui a oublié son alliance. Bon, c'est peut-être un monsieur.
Le
ramenez directement à lui
À son conjoint, c'est mieux.
Malheureusement, à son conjoint.
Non, à la personne qui demande la restitution de l'objet.
Bon, et juste, dernière chose qui m'intéresse vraiment cette fois beaucoup, c'est vous avez beaucoup de concurrents au monde ou c'est vraiment une innovation que vous venez de sortir en France et c'est presque unique ?
Sur la partie service bagage, livraison, il y a des concurrents et c'est des services qui existent beaucoup en Asie. Sur la partie objets trouvés en France, on est les premiers.
D'accord.
Bon, il y a du boulot, dites-moi, Elisabeth, parce que à Paris, il y a déjà pas mal de chambres d'hôtel.
Mais déjà, c'est l'endroit où il y a le plus de chambres d'hôtel en France, c'est Paris. 80 000 chambres d'hôtel. Et alors, savez-vous dans quelle autre ville on recense le plus de chambres d'hôtel ?
New York.
Rome.
Non, dans France. En France.
Ouais, Marseille,
Paris.
Bordeaux.
Lourdes, avec ses millions de fidèles chaque année. Lourdes a près de 11 000 chambres d'hôtel. Nice et Lyon arrivent respectivement à la 3e et 4e place du classement, suivi de Marseille.
On en apprend tous les jours ici sur Europe 1. Vous restez avec nous, on va continuer à découvrir la chambre d'hôtel du futur.
Et il est 13h17.
Et si cette chambre devenait interactive, on vous emmène la visiter dans une minute. Vous allez découvrir avec nous la matière bavarde. À tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et aujourd'hui on prépare les vacances et on se demande à quoi va ressembler l'hôtel de demain. Les Français sont en pointe sur le sujet, vous les avez invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir, n'hésitez pas, 3921 c'est le standard et Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag à mes côtés, Eric Léandre, fondateur de Quant et coach du jour. Dans l'hôtellerie, comme dans les autres secteurs, il faut pouvoir avoir un coup d'avance et essayer de deviner quels sont les besoins des vacanciers. Et si je vous disais que demain, pour allumer la lumière, vous n'aurez peut-être plus qu'à toucher le mur à côté de vous sans vous lever du lit. Bonjour Margot Bardou.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Vous êtes la fondatrice et designeuse du studio Marianka et vous avez inventé ce que j'appelais tout à l'heure la matière bavarde. Votre start-up existe depuis juillet 2017, mais avant cela, vous avez travaillé sur une nouvelle technologie autour des revêtements de surface, enduits, mortiers, panneaux en bois, c'est ça ?
Oui, c'est ça, complètement. Donc là, on a depuis un an et demi ouvert le cabinet de design Marianka, donc qui est spécialisé dans les surfaces interactives et connectées et qui est basé sur une technologie donc qu'on a brevetée qui s'appelle la matière bavarde et qui permet de transformer tout type de surface en interrupteur. Donc en fait, ce que nous avons développé, ce sont des matériaux de sous-couche qui peuvent capter la présence du corps au toucher ou à légère distance afin d'activer un éclairage ou toute autre technologie. Et ce, à travers n'importe quel matériau de finition. Finalement, on va pouvoir capter à travers du carrelage, du marbre, du bois.
On mettra sa main comme ça sur le panneau qui est à côté de nous, alors qu'on soit dans la chambre d'hôtel ou peut-être dans la salle de bain et on pourra interagir.
Exactement, il suffit soit d'effleurer ou de toucher le matériau sur lequel on a défini notre zone d'interaction.
Parce qu'il détecte la présence humaine.
Exactement. C'est une détection en fait basée sur une technologie capacitive. Donc ça va capter le flux électrique du corps humain afin de contrôler donc, tout type de technologie comme tout type d'interrupteur.
Que dit le coach ? Il est séduit, je suppose ?
Oui, beaucoup. Et je sais qu'ils vont au CES de Las Vegas. Vous avez trouvé un nom en anglais ou vous allez débarquer avec la matière bavarde là-bas ?
On va débarquer avec la matière bavarde puisque tout est fabriqué en France.
Bien, bravo.
Et même plus précisément dans le Tarn. Donc, oui. On va prôner cet artisanat français. Voilà.
D'accord. Alors, juste un petit conseil quand vous êtes au CES de Las Vegas, comme c'est très, très innovant, s'il vous plaît, allez voir tous les autres pour leur vendre. Restez pas juste entre Français. Je vous assure, on va venir vous voir, ça va être top et on va en parler, mais allez voir les autres coins du CES et proposez votre produit parce que vous avez quelque chose de très nouveau et si ça leur plaît, ça va changer votre vie.
Personne avant vous n'avait travaillé sur ce concept-là, Margot ?
Alors, il existe des peintures qui sont basées sur le même principe, mais qui ne peuvent pas être recouvertes d'autre chose qu'une fine couche de peinture. Et nous, l'objectif avec mon collaborateur Benoît Gauthier, qui est peintre en bâtiment, c'était de développer vraiment un produit qui s'adaptait à l'artisan et qui permettait de capter à travers des matériaux épais.
Vous avez travaillé aussi sur le son ou uniquement sur la lumière ? C'est quelque chose que vous êtes en train de faire ?
Alors effectivement, on travaille aussi sur des interactions sonores, notamment pour équiper des EHPAD avec nos systèmes d'interrupteurs, avec un système de va-et-vient entre la porte d'entrée et la tête de lit, et avec un signal sonore qui sera différent en fonction de l'éclairage on et de l'éclairage off.
Ouais, donc ça veut dire que pour l'instant, vous êtes à l'étape prototype ? Vous n'avez pas encore mis votre savoir-faire à disposition d'hôteliers ?
Alors, nous n'avons pas encore mis et installé notre technologie dans des hôtels. Néanmoins, on a travaillé aujourd'hui sur des projets de coworking avec des espaces de travail et des cloisons séparatrices d'espaces interactives.
Chez vous, en Occitanie ?
Voilà, exactement.
Et alors, ça se passe comment ? Quelles sont les premières réactions de ceux qui l'utilisent ?
Ben alors, les premières réactions de ceux qui l'utilisent, ils sont très convaincus, surtout qu'on l'a installé en fait dans les locaux de ceux qui nous suivent, donc de l'IMT d'Albi. Et donc, ce sont des étudiants, en fait, ingénieurs qui l'utilisent.
C'est votre incubateur,
donc,
hein, c'est ça ?
Exactement. Donc, ce sont des étudiants ingénieurs qui l'utilisent et sont ravis de justement pouvoir mêler technologie et travail, quoi.
Elisabeth, on fait le tour de notre chambre du futur. Vous avez trouvé quoi ?
On y va. J'ai trouvé plein de choses. D'abord, elle sera écologique. En tout cas,
sensible à la notion environnementale. La chambre sera conviviale. Pas nécessairement de télévision dans les chambres, mais une généreuse wifi. Pas forcément des baignoires, mais des douches plus économes en eau. Des cafetières avec des dosettes en papier, pourquoi pas, de marque équitable. Pas de plastique, des produits, des savons, des shampoings bio, des meubles issus du recyclage. Sans oublier, bien sûr, les fondamentaux. Hein, un accueil, des conseils. Par exemple, quand vous arrivez à l'hôtel, on va vous conseiller les bons restaurants du quartier, du confort, une literie performante comme on n'en a pas à la maison pour que ça devienne une réelle expérience.
Et alors dans les innovations du salon justement Équipe Hôtel, vous en avez relevé quelques-unes qui vous ont tapé dans l'œil.
Alors il y a par exemple celle d'architectes français Varino et Varino qui ont imaginé un nouveau concept d'hôtel avec des élevages de poissons et des fermes verticales sur les toits pour pouvoir concocter tout ce qu'ils vont servir dans le restaurant de l'hôtel comme des plats à la langouste. Ils disent, ces architectes disent que la production de poissons et de produits frais pourrait nourrir jusqu'à 60 personnes par jour. Et ce seront aussi des chambres avec par exemple des odeurs pour vous sentir le mieux possible, des papiers peints connectés pour choisir le décor que vous souhaitez.
Et l'intelligence artificielle, elle entre aussi dans le monde de l'hôtellerie.
Et elle va révolutionner hein, le monde de l'hôtellerie, on le sait. Hein. Vous allez donc choisir votre atmosphère, des robots concierges. Et puis l'intelligence artificielle, elle va surtout accélérer le processus de réservation. Hein. Il va devenir de plus en plus transparent, des tarifs ajustés en temps réel. Donc tout ça, ça va nous permettre de cibler au mieux la chambre et pas forcément avec des prix beaucoup plus coûteux.
On reste ensemble, on continue à parler de l'hôtel et de la chambre de demain. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
On vous attend, vous êtes peut-être déjà en vacances. Venez nous dire ce que vous attendez justement de votre chambre d'hôtel, des services qu'on vous offre. 3921, vous connaissez le numéro. C'est la France qui bouge.
Découvre les hôtels de demain. À quoi vont-ils ressembler? On en parle avec vos invités, Raphaël Duchemin. C'est ça, la France qui bouge. Avec toutes vos questions, vos réactions, vos témoignages, on vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et on vous écoute au 3921, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Et oui, venez nous dire ce que vous attendez de la chambre d'hôtel, de vos vacances aussi, de l'endroit qui vous accueille, des services qui vous sont proposés. Nous sommes avec Éric Léandri, fondateur de Quant, qui est le coach du jour, avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne. Nos invités, Geoffroy Thirier, dirigeant de Thirier Litry, Fabien Cœuruny, cofondateur de Hellway, des solutions pour les bagages et les objets désormais trouvés. Et puis Margot Bardou, fondatrice du studio de design Marianka et créatrice de cette fameuse matière bavarde. J'ai tout simplement envie de vous demander à tous les trois, comment est-ce que vous imaginez la chambre d'hôtel de vos rêves? Margot, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait?
À une chambre qui lie à la fois les accessibilités à personnes à mobilité réduite, tout en mettant en avant la décoration pour sortir de ces chambres très, très froides qui sont pourtant très techniques et de lier les deux finalement.
Même question pour vous Fabien, la chambre de demain, elle ressemble à quoi?
C'est pas simple hein. Comme question, je pense que
vous celle, auriez
en tout cas
quoi,
celle qui me plairait, c'est celle où je rentre, tout est allumé sur les programmes que j'aime bien, la musique que j'aime bien.
La chambre personnalisée.
Exactement.
Et vous, Geoffrey, pardon?
C'est un peu la même idée, c'est de se dire qu'on se sente comme chez soi à l'hôtel. Y a des gens qui voyagent beaucoup et qui sont peu de temps chez eux et beaucoup plus de temps en déplacement. Et je pense qu'ils auraient grand plaisir à rentrer un peu comme chez soi, n'importe où, aux quatre coins du monde ou de la France.
Éric Léandri, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, envisagé?
Tout ce qui vient d'être décrit est envisageable et surtout envisagé. La question, c'est comment on va le faire. Voilà, on va le faire en sachant toutes vous avant d'y aller, parce que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure que l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir la meilleure chambre au meilleur prix. Pour l'instant, c'est la meilleure chambre avec le meilleur prix pour celui qui vous la vend.
Enfin, tout à fait.
Pour la plateforme,
c'est un peu le principe du business,
qui vous la vend et qui, elle, va la payer moins cher à l'hôtel. Mais l'intelligence artificielle, si vous l'appliquez à tout ce qui vient d'être dit, dans le respect des données personnelles, vous pouvez faire exactement tout ça dès aujourd'hui, et avec madame qui vient de rajouter quelque chose de drôle, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir compléter les infos qu'on n'a pas sans avoir besoin de mettre une caméra. Vous voyez ? Par exemple, ce genre de choses sympas. Parce que la caméra dans la chambre d'hôtel fait un peu flipper.
Alors, un peu, ouais.
C'est-à-dire, réexpliquez-moi.
Je ne sais pas, si je vous mets une caméra dans la chambre d'hôtel, je vais pouvoir savoir si vous êtes debout, si vous sortez du lit, si vous allez vers la salle de bain.
Ça, on n'en veut pas, voilà. Évidemment.
Avec madame, vous allez pouvoir mettre justement des matériaux qui savent que vous allez vers la salle de bain et qui allument la salle de bain quand vous y rentrez et qui la referment quand vous ressortez. Pourtant, elle ne sait pas si c'est moi ou vous. La caméra, elle, au contraire, j'aurais un doute sur le fait qu'elle n'aille pas un tout petit peu plus loin. Puis vous savez, caméra, tout à l'heure, on a parlé de comment dormir. J'espère que vous utilisez vos lits pour autre chose de temps en temps. Et donc, la caméra, franchement, c'est pas top si jamais vous avez une activité physique en chambre.
On est bien d'accord, les caméras en chambre, c'est pas l'idéal. Sur le lit, justement, quelles sont les évolutions possibles, envisagées, celles que vous avez en tête ou envie peut-être de développer?
Alors les évolutions qui ont lieu en ce moment, bien sûr, c'est la dimension, parce que plus un lit est large, moins on gêne son partenaire et donc plus la qualité du sommeil est importante. Ensuite, on va parler de confort. Les matelas sont de plus en plus épais, souvent recouverts d'un surmatelas, une mode qui nous vient des États-Unis pour offrir encore plus de confort. Et ensuite, le matelas, le sommier, la tête de lit devient un véritable meuble qu'on ne cache plus. Aujourd'hui, on arrive à faire des têtes de lit magnifiques avec des designers, des sommiers qui ressemblent vraiment à un meuble et qui s'incorporent bien dans le design d'une chambre.
Vous avez le sentiment qu'on peut aller jusqu'où en termes de dimension pour un lit aujourd'hui? Parce qu'on parlait des 160, des 180. On a aussi des chambres d'hôtel qui sont parfois, comme à Paris, petites. On peut allier les deux? Jusqu'où est-ce qu'on va?
Malheureusement, la taille des chambres est un frein, que ce soit dans un hôtel ou chez soi. L'idéal minimum étant un 160-200, le 180-200 se démocratise. Après, il n'y a pas tellement de limites. On peut faire un 2m, 2m10 sans problème, parce que, bien sûr, les Français sont de plus en plus grands et les clients étrangers, je pense aux Belges, aux Hollandais, aux Allemands, sont bien plus grands que nous et un 2 mètres de long. Ah ben, ils ont les pieds qui dépassent.
Oui, ça veut dire qu'il faut en permanence revoir les standards, hein, finalement. Ça change régulièrement. Ça a changé depuis que vous êtes entré dans l'entreprise de votre père.
Alors, ce qui est sûr, c'est que la longueur qui était majoritaire, c'était 1m90. Aujourd'hui, si on fait le cumul de tous les matelas que l'on vend, le 200 est devenu majoritaire. Et heureusement, l'homme français est... aux alentours d'1m80.
Anissa,
il existe des lits modulables pour les enfants. On part du tout petit lit, puis ça grandit. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager des matelas modulables dans les hôtels? Alors, pour justement les touristes
des
très grands.
Des lits modulables en longueur, oui, on pourrait rajouter 10 cm, 20 cm. Il y a une idée à creuser. Après, il faudrait que le sommier s'adapte aussi, mais pourquoi pas, c'est une piste...
Je la dépose.
Immédiatement. De toute manière, si vous ne la déposez pas, Éric Léandri va
vous dire. Non, laissez-la déposer, vous en faites pas. Il est bien câblé, monsieur. Vous allez voir en sortant.
Fabien Caruni, Elway, solution de bagages, solution aujourd'hui pour les hôtels, pour les objets qu'on oublie, évidemment. Est-ce que vous allez commencer, on l'a dit tout à l'heure, à aller travailler à l'étranger? Ce sont les hôtels en fait, hein, qui sont venus vous voir pour vous demander d'adapter le service.
C'est ça. En fait, à la base, on livrait des bagages et les hôtels nous ont demandé de livrer des objets oubliés en chambre. Et on travaille avec les hôtels, mais maintenant on travaille avec les gares, les aéroports, les transports en commun. C'est le fait d'avoir moins de bagages avec soi, ça libère en fait le voyageur, mais aussi les utilisateurs. Les passagers dans les gares et les aéroports.
Vous êtes combien aujourd'hui?
On est 15.
15? Donc ça veut dire que vous allez probablement grossir dans les mois, dans les années qui viennent?
Oui, on a...
Pas vous, hein, bien sûr, Eloé, évidemment.
Oui, on est en train de recruter justement des développeurs et des commerciaux pour continuer à développer cette activité et après aller à l'étranger.
Oui, vous cherchez beaucoup de monde? Allez-y, hein, l'antenne est ouverte. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés, qui nous écoutent.
On a quelques postes de développeurs d'ouverte sur. Voilà, on cherche des gens passionnés du voyage.
Le mot de la fin. J'ai une autre idée pour lui, mais j'ai un petit tacle d'abord.
Allons-y.
C'est dans les avions qu'on oublie la plupart du temps quelque chose juste avant de sortir et souvent des choses importantes. Après, on les retrouve jamais parce que ceux qui viennent vous les nettoyer en 3 secondes, même si vous demandez 10 minutes après, ils ne le trouvent pas. Mais si les gens comme Air France se remettaient à être un peu sérieux avec leurs clients, voilà pour mon tacle, ça serait vraiment bien aussi de regarder les compagnies aériennes pour pouvoir nous livrer ce qu'on a oublié dans l'avion, tout bête. Et c'est souvent le cadeau de dernière minute qu'on a pris pour notre enfant à l'autre bout du monde qui arrive à nous voler.
Ou les ordi.
Par exemple, on travaille avec l'aéroport de Lyon, où on a créé un service où on vient maintenant récupérer les bagages directement sur le tapis bagages. Donc quand vous avez oublié ou quand vous avez un litige bagages, vous pouvez partir. Nous, on se charge de tout et vous n'attendez plus.
On est, grâce à vous, dans la chambre d'hôtel de demain. On n'est pas encore en vacances, on est toujours sur Europe 1. Merci d'être venu ce midi dans La France qui bouge.
Il est 13h38.
Europe 1.
Elle faisait de la broderie avant de démocratiser le caban et la marinière. Le Minor est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Et celle d'aujourd'hui, elle est de saison.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Le Minor. Bonjour Jérôme Perminja.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la marque Le Flageolet et aussi, désormais, le repreneur de Le Minor. C'est une belle histoire, en fait, hein, que l'alliance, finalement, de ces deux entreprises. Vous, au départ, vous fabriquiez des nœuds papillons et d'autres choses pour les hommes. Et puis, vous êtes lancé en 2015 et vous avez décidé de commencer à produire des bonnets. C'est là que vous tombez sur Le Minor.
Absolument. En 2015, on décide de faire une collection de bonnets et on a cherché un fabricant en France qui soit capable de faire des bonnets avec de la jolie laine en France. Et on a trouvé la société Le Minor en Bretagne.
Coup de cœur.
Coup de cœur sur l'usine qui était vraiment dans son jus.
Ouais.
Et on est tombé sous le charme de la dirigeante aussi, qui a réussi du coup à nous faire une collection de bonnets. Et l'année suivante, nous en avons refait une autre et nous sommes allés faire un film. Et à cette occasion-là, elle nous a dit qu'elle cherchait un repreneur. Et on a commencé à regarder le dossier avec elle et on a finalement racheté l'entreprise le 1er juin dernier.
Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir?
On avait très envie d'avoir une entreprise qui fasse des beaux produits. Donc ce qu'on avait fait avec le flageolet et notamment les nœuds papillons. Et en fait, on a été séduit par l'histoire de Le Minor. Le Minor, c'est une entreprise qui date de 1936, qui détient un savoir-faire vraiment très très précieux. Il y avait une trentaine de salariés dans cette entreprise qui sont là pour certaines depuis 43 ans, qui ont fait toute leur vie dans cette entreprise. Et on a été vraiment sous le charme de cette entreprise qui mettait un soin très particulier dans le produit. Et vraiment, c'était le souci du beau produit qui nous a attirés.
Ce qui est fou, c'est qu'au départ, c'est Pont-l'Abbé, c'est 1936, c'est de la broderie. Et puis, Le Minor, elle va évoluer. Hein. Finalement, elle va commencer à fabriquer les fameux cabiques, hein, les vêtements pour marins. Il y a à l'époque 500 salariés. C'est un énorme truc hein, là-bas, dans la région. Et puis, petit à petit, bon, ça perd un petit peu de son intérêt. Il y a les années 70 qui arrivent. Là, il y a un creux.
Il y a un gros creux dans les années 70. Le Minor est cédé à ce moment-là à une entreprise qui s'appelle Manufacture de Bonnetterie Lorientaise et qui est cédé à nouveau 10 ans après à la famille Grammatico. La famille Grammatico, c'est une famille d'industriels du Nord qui détenait le groupe Armand Thierry notamment et Biedermann et qui rachète cette entreprise. Alors de la même façon que nous, ils ont été séduits par cette marque et par l'histoire de cette marque. Ils ont eu envie de lui redonner son lustre. En fait, malheureusement, le grand frère est décédé 15 jours après. Et du coup, le petit frère et la petite sœur de Jean-Luc Grammatico se sont investis dans l'entreprise, mais sans vraiment avoir de formation particulière, etc. Et pendant 30 ans, du coup, ils ont tenu l'entreprise à bout de bras. Mais
ils n'ont jamais voulu délocaliser ni baisser la qualité. Ça, c'est important de le dire.
C'est vraiment ce qu'on doit remettre à leur crédit. C'est que jamais, 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 ils ont cédé aux sirènes de la délocalisation. Et ils ont toujours mis un soin particulier à garder une qualité irréprochable. Et ils ont aussi développé les marchés à l'export, puisqu'aujourd'hui, Le Minor, c'est 90% de son chiffre d'affaires à l'export, dont 70% en Asie.
À cause des fameux cabans, ou grâce aux fameux cabans notamment?
Principalement grâce aux marinières, et au coton, parce qu'on utilise un coton un petit peu particulier qui est un peu brut et rigide et qui plaît beaucoup aux Asiatiques. Et du coup, au Japon, on est le deuxième distributeur de marinières Made in France, par exemple. On talonne Saint-James, mais c'est assez intéressant de voir qu'une entreprise française ne fait plus que 10% de son chiffre d'affaires en France, alors que c'est une entreprise historique et que c'était un des poumons économiques de la Bretagne dans les années 60-70.
Ce qui a été difficile aussi, et ça on ne l'a pas précisé, c'est qu'ils ont perdu un énorme marché en 2010, hein, celui de l'armée.
De la Marine nationale. La Marine nationale, c'était 15 000 pulls par an, tous les ans. Donc effectivement, c'est un gros marché pour la marque Le Minor. Et quand l'entreprise a perdu ce marché, la propriétaire s'est du coup tournée vers des petits créateurs qui pouvaient lui assurer un chiffre d'affaires quand même complémentaire. Et commencer à faire de la marque blanche. C'est dans ce cadre-là que le flageolet a fait faire ses bonnets chez Le Minor. Et ça correspond à 5% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Voilà.
Que dit le coach?
Que c'est
formidable
assez spectaculaire.
Aventure, hein.
Ouais, vraiment formidable. Et puis c'est assez spectaculaire cette capacité de se réinventer à chaque fois. Quand on perd 15 000 pulls par an, ça doit être juste énorme. Et hop, elle trouve cette idée-là. Donc moi, ma question maintenant, c'est vous. Il va falloir, vous, maintenant que vous réinventez tout ça, donc c'est quoi le plan? Alors j'ai bien compris que le Japon a l'air de vous faire de l'œil, là.
La France aussi, vous rouvrez une boutique.
Exactement.
Vous ouvrez une boutique.
Le Japon est acquis, l'Asie est à peu près acquise aujourd'hui.
C'est déjà pas mal.
Il faut qu'on développe d'autres marchés et surtout qu'on harmonise notre stratégie de marque. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est que Le Minor est connu par des gens traditionnels. On est distribué sous la marque Le Minor dans des boutiques traditionnelles côtières, alors qu'au Japon, on est une marque ultra fashion. Donc c'est assez intéressant d'avoir un décalage aussi impressionnant entre ces deux univers. Donc on a un gros défi sur la stratégie de marque, un défi sur la stratégie commerciale. Il n'y a pas de site internet. La famille Grammatico n'a jamais voulu développer de site internet. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier qu'on a à faire. Et puis à redévelopper la France, en se différenciant de nos principaux concurrents qui sont Armand Luxe et Saint-James, qui ont des stratégies de distribution sur le pull marin. Nous, il faut qu'on se positionne pas du tout sur le même segment, puisqu'aujourd'hui, on fait toute notre production en France, ce que ne fait pas Armand Luxe et encore moins Saint-James. Et du coup, ça leur permet surtout de dégager des marges et de distribuer en France à des prix sur lesquels on ne peut pas être en concurrence frontale. Donc on doit avoir cette stratégie de différenciation là.
Et je parlais de boutique, il y en a une qui ouvre à Paris, c'est ça? C'est prévu?
Alors elle réouvre en fait, parce que la boutique était là depuis 30 ans. Mmh. Et on la réouvre demain soir à Paris. Donc on a fait des gros travaux pour avoir un point de vente à Paris. Cette boutique, elle est à l'angle de la rue de Rennes et la rue du Four, rue du Sabot très exactement.
C'est oui.
Et vous faites un pont entre le flageolet et Le Minor?
Alors on y croyait au début, notamment sur la confection, mais en fait on a tellement de clients à servir avec Le Minor aujourd'hui qu'on peut pas, qu'on utilise uniquement la plateforme logistique en commun. Et la production, on le fera si possible dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est pas possible.
Comme quoi, il y a encore de belles pages à écrire dans l'industrie française. Merci d'être venu nous parler de Le Minor 1936, hein, tout de même, je vous le rappelle.
Il est 13h48.
Europe 1.
Vous en avez marre de faire 1h30 de voiture pour aller travailler? Job Ilks a peut-être la solution pour vous. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin, Elisabeth Assayag et notre coach du jour Eric Léandri. Et chaque jour, vous nous proposez juste avant 14h, Raphaël, une solution qui facilite la vie des Français.
Vous en avez peut-être assez des longs trajets pour vous rendre à votre travail. Comment garder votre poste, mais en travaillant plus près de chez vous? Nous avons trouvé, Elisabeth Assayag, la solution avec Job Ilks. C'est une appli qui fournit au service des ressources humaines d'une entreprise le calcul pour chaque salarié de son temps de trajet. Et à partir de là, on essaye tout simplement de lui trouver la solution.
Oui, parce que vous savez peut-être qu'en France, les salariés passent plus d'une heure en moyenne par jour pour aller du domicile au travail, 64 minutes précisément. Et pourtant, il y a des entreprises comme par exemple des chaînes de supermarchés, des banques, des entrepôts qui ont différents sites sur une même zone. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des entreprises multisites. Alors avec cette application Job Ilks, qui existe depuis 3 ans, on calcule pour chaque salarié son temps de trajet en voiture, en transport en commun. Les données sont fournies au service des ressources humaines de l'entreprise parce que l'appli identifie les jumeaux, c'est-à-dire les salariés qui travaillent sur différents sites mais qui ont le même poste, qui ont le même métier. Et l'objectif, c'est d'échanger leur poste pour qu'ils travaillent au plus près de leur maison.
Bonjour Bruno Adeline.
Bonjour,
merci
à tous, bonjour aux auditeurs.
Avec nous sur Europe 1, vous êtes le fondateur de Job Ilks. On va passer à un cas concret tout de suite. Je suis hôtesse de caisse dans un supermarché, je mets 1 heure de trajet par jour. Comment je fais pour réduire mon temps de trajet et pour trouver mon jumeau?
Alors tout d'abord, vous vous adressez à votre employeur, oui. Parce que c'est lui, et notamment, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce sont les directions des ressources humaines qui ont l'application dans les mains. À partir de l'analyse que nous avons faite en amont, nous savons que une caissière, une hôtesse de caisse, peut avoir une, deux, cinq, dix binômes possibles. Et donc, ce sont les services des ressources humaines qui vont déterminer, dans un ordre de pertinence décroissante, laquelle va pouvoir permuter avec cette hôtesse de caisse afin que l'une et l'autre se retrouvent plus proches de leur domicile pour travailler, effectivement.
Alors, vous existez depuis 3 ans, vous avez déjà un petit recul. Est-ce que les entreprises jouent le jeu déjà ?
Alors, les entreprises, les grands comptes, donc les entreprises multi-établissements et les collectivités publiques, non seulement jouent le jeu, mais s'intéressent de très près à notre application et le potentiel reste aujourd'hui très important, même si nous n'avons pas encore toutes les données dans les mains pour affirmer que ça fonctionne très bien.
Mais concrètement, comment ça se passe ? Vous allez vous démarcher les services des ressources humaines, vous expliquez qu'il y a potentiellement des personnes qui ont un trop long trajet de travail et vous pourriez arranger les choses. Et après, ils rentrent en contact avec les personnes concernées ?
Nous fonctionnons en deux temps. Le premier temps, c'est effectivement après une démarche de prospection auprès de ces entreprises. Nous les convaincons qu'une analyse du fichier du personnel peut être opportune pour sous l'angle justement des trajets domicile-travail. Et c'est une fois qu'on a détecté ce potentiel, à peu près systématiquement, nous trouvons 25% du potentiel analysé éligible à l'échange, à la permutation. Donc c'est extrêmement important. Et à partir de là, nous mettons en place une application en mode interactif dans les entreprises, au sein des ressources humaines, pour analyser les situations au cas par cas, l'une par une.
Que dit le coach Éric Léandré ?
Non, c'est très, très, très intéressant. Ma question, c'est comment réagissent aussi les salariés ? C'est-à-dire, c'est toujours parfaitement perçu, c'est génial, baisser leur temps de trajet ou l'endroit où ils vont travailler est aussi très important pour eux ?
Alors, l'endroit où ils travaillent, où ils vont travailler est effectivement essentiel pour eux. Tout dépend en fait si le malaise du trajet est important ou pas. Tant que le malaise du trajet n'est pas important, on va pas s'amuser à aller leur proposer de changer. Et de toute façon, notre application n'est qu'une proposition. Et ce sont les DRH qui non seulement consultent les deux personnes concernées, mais consultent évidemment leur manager.
Allez-y.
Pardon, et 25%, c'est beaucoup. C'est quelle taille d'entreprise pour avoir ce type ? Parce que c'est un quart du personnel, c'est juste énorme.
Alors c'est un quart d'une certaine catégorie de personnel. Oui, de la catégorie de personnel analysée, vous avez cité tout à l'heure les hôtesses de caisse, c'est exactement le type de personnes, de catégorie d'emploi que nous visons dans l'application.
Ça s'appelle Jobilks, c'est donc une solution, en tout cas c'est la solution du jour aujourd'hui sur Europe 1. Merci Bruno Adeline d'être venu nous en parler. Merci à Éric Léandri qui était notre coach du jour. À bientôt sur Europe 1. Nous on se dit à demain
Elisabeth, Raphaël.
Je vous emmènerai en voyage autour de la soie.
Merci, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 qui revient demain à 12h30 à 14h pile dans un instant sur Europe 1. Vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Christophe Ondelat et ses récits. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une grande saga familiale. L'histoire de Salia. Son père émigre en Belgique en 1965. En 2013, son fils part faire le djihad en Syrie.
Salia, une mère face à l'islamisme. C'est dans un instant sur Europe 1 et c'est avec Christophe Ondelat, bien sûr.